Bonjour à tous. Nous poursuivons notre parcours dans l'épître de Paul aux Romains. Donc on est toujours dans le chapitre 1, on avance doucement mais sûrement. Et je vous invite avec moi à prier avant de plonger dans la parole. Seigneur, nous venons lire ces épîtres, ces écrits que tu nous as transmis, Seigneur, par ton esprit, fidèlement. Et nous voulons y puiser, Seigneur, toute la sagesse, la compréhension de qui es-tu et de qui nous sommes et de ce que nous faisons ici. Que ton esprit nous conduise, nous dispose, me dispose, pour prêcher droitement ta parole, Seigneur. Nous en avons besoin. Amen. Donc l'épître de Paul aux Romains, on avait déjà pas mal parlé de cette introduction qui se terminait un peu magistralement par cette phrase qui est devenue célèbre, notamment grâce aux travaux de Martin Luther. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais expliqué que cette phrase était tirée d'un prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Habacuc. Et Habacuc, il n'a pas vécu une époque facile, puisque son ministère de prophète, il a dû l'exercer juste avant que Babylone, en gros, débarque et mette une raclée, puis une deuxième raclée à Jérusalem. Première raclée, ils emportent toutes les élites et les têtes pensantes du pays loin, loin. Deuxième raclée, ils rasent les murailles, ils rasent la ville et ils emportent encore des gens loin, loin. Ce qui fait que le peuple est vraiment à terre. Et dans la bouche du prophète, peut-être le pire message à annoncer qu'il avait, c'était de dire, en fait, c'est Dieu qui vous envoie cette sentence, parce que ça fait des décennies et des générations que vous refusez d'écouter Dieu. Alors, il vous livre à ces gens. Et c'est ça le message que je dois vous annoncer. Mais, dans tout cela, dit-il, le juste vivra par la foi. Ça ne veut pas dire que le juste va traverser la vie avec une espèce de bulle nacrée, auréolée qui va le protéger de tout mal et puis que lui manquera de rien et que tous les gens seront gentils avec lui. Non, non, non. Ça veut dire qu'il va traverser cette épreuve et il s'en sortira. Comment ? Vivant, grandi, fortifié. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est important en fait de se souvenir dans quel contexte Habacuc avait dit cette phrase « Le juste vivra par la foi ». Parce qu'on comprend mieux qu'est-ce que Paul va dire par la suite. Voilà. Donc je relis à partir du verset 16 du chapitre 1 et je vais aller jusqu'au verset 25. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif premièrement et du grec ensuite. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « le juste vivra par la foi ». La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, Et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible ou des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Voilà, ça s'arrête là. Comprenez peut-être pourquoi je refais ce lien entre Habacuc, qui vivait un temps où Dieu allait juger son peuple, et là, Paul parle d'un temps de colère de Dieu aussi, et reprend ces mots-là du juste qui vivra par la foi. Peu de temps après le ministère de Paul, Jérusalem sera de nouveau détruite. Le temple sera de nouveau rasé et le peuple de Dieu sera de nouveau jugé quelque part. Et dans le jugement que les Juifs vont recevoir à ce moment-là, par Dieu, avec ce temple qui va être rasé, les chrétiens vont trinquer très sévèrement, très très sévèrement. Et si vous lisez l'Apocalypse avec ça en tête, vous allez voir que ça s'éclaire sous un jour un peu nouveau. Et le juste traversera cette épreuve-là par la foi. Alors, on n'est pas trop familier de la colère de Dieu. Ce n'est pas un concept qu'on aime trop regarder et sur lequel on aime trop s'attarder, n'est-ce pas ? On préfère le Dieu bon, le Dieu d'amour, le bon berger, le Dieu patient, miséricordieux. Et là, d'entendre dire que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, on se dit « Ouf ! Qu'est-ce qui va se passer ?» Plusieurs choses déjà que j'aimerais évoquer par rapport à la colère de Dieu. Tous vous vous êtes déjà mis en colère. Et tous, vous savez qu'il y a des colères qui sont maîtrisées, des colères qui sont justes, dans le sens où elles viennent vraiment d'un sentiment profond, d'injustice claire et assumée. Puis il y a tout un tas d'autres colères qui ne sont pas maîtrisées, où vos comportements, vos actions, vos réactions, vos attitudes dépassent votre pensée. Il y a ces colères aussi qui servent à nous protéger, hein, où en fait, là, ce que tu viens de dire vient de me blesser, mais en fait, je ne veux pas que tu saches que là, je suis blessé, alors je vais t'attaquer pour me protéger et tous ces trucs de défense qu'on a en nous. Les colères de Dieu, la colère de Dieu, est toujours juste. Elle n'est jamais démesurée. Là où nous, ça nous arrive de craquer à bout de patience, Dieu ne craque jamais. Il décide de se mettre en colère. Il décide, ça y est, là, je me mets en colère. La colère de Dieu n'est pas de la haine, elle n'est pas une envie de détruire, elle a une envie de mettre une fin au mal. On dit Dieu est amour, on dit Dieu est justice, on dit Dieu est vérité, on ne dit pas, on ne trouve pas dans les Écritures, Dieu est colère. Parce que la colère ne fait pas partie de sa nature première. La colère de Dieu est une réaction de Dieu, qui vient en Dieu, quand sa justice se confronte à notre péché. Donc elle n'est pas une haine, une envie de détruire, mais elle est une réaction par laquelle il veut mettre un terme au mal. Un terme au mal. et restaurer la justice. Donc s'il est possible, c'est une bonne colère. Mais ayant dit ça, elle est tout de même redoutable. On va voir pourquoi. La colère de Dieu se révèle des cieux contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Déjà, Paul nous interpelle en disant que la colère est déjà en train de se révéler à son époque. Ça veut dire que celui qui considère les choses autour de lui, avec peut-être les yeux de la foi, dira-t-on, va voir des signes que Dieu est en colère. Il n'est pas en train de dire « Attention, la colère de Dieu viendra » en parlant du jour du jugement dernier, ce qu'il le dirait au futur. Il en parle aussi de cette colère à venir. Là, il parle d'une colère de Dieu qui est là maintenant et qui se révèle maintenant. Et d'où vient-elle cette colère? Paul le détaille assez bien. Encore une fois, il dit « Si on voyait clairement les choses, si notre cœur n'était pas entaché de péché, si nos raisonnements n'étaient pas corrompus, nous verrions comme une évidence que Dieu existe. Nous verrions comme une évidence que la création est l'œuvre d'un créateur. » C'est ce que dit Paul quand il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on la considère dans ses ouvrages. » Pour lui donc, celui qui refuse de reconnaître le Créateur, celui qui refuse de chercher à rencontrer ce Dieu qui existe parce que la nature le dit d'une manière évidente, n'a pas d'excuse. Et son cœur se plonge dans des ténèbres sans intelligence. Et alors, Paul pointe du doigt que, puisqu'ils ont refusé d'adorer le Créateur, ils vont se rabattre sur la créature et se faire des faux dieux. Alors, nous, les Occidentaux du XXIe siècle, nous sommes bien plus intelligents que ces peuples-là de païennes d'autrefois qui se faisaient des idoles en or et en argent et en bois. Et du coup, on ne se fait pas des faux dieux, nous. Quoique, l'argent, la réussite sociale, les diplômes, les études sont autant de choses que nous brandissons et que nous manipulons autour de nous pour nous garantir un avenir sûr. Je vous l'avais déjà raconté. Mon fils, voici la déesse réussite scolaire. Si chaque jour tu viens faire tes dévotions à la déesse réussite scolaire, 2 heures par jour, elle te bénira avec un diplôme magique qui te protégera de tout mal. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit, si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon travail et alors tu seras jamais à la rue. Voilà. Alors il y a un lien. Il peut y avoir, oui, effectivement, mais il peut y avoir aussi là-dedans une croyance, une dogme. Eh oui, mais moi j'aimerais bien faire plombier. Oui, mais non, parce que moi je veux que tu fasses un gros diplôme. Oui, moi j'ai pas envie de faire des grosses études. Oui, mais le gros diplôme, il te protège ton avenir. Et moi, en tant que parent, j'ai besoin d'être rassuré. Ceci ou d'autres choses, la bien-pensance, nous avons nos petites idoles à nous, domestiques, familiales, que nous nous transmettons de génération en génération, tout athée que nous sommes. Alors, on voit maintenant quel type de colère Dieu déclenche sur eux. Et c'est peut-être ça le plus intriguant. Au verset 24, il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. » Comment la colère de Dieu se manifeste-t-elle envers le pécheur ou la pécheresse, parce qu'il y en a aussi ? En nous livrant aux passions qui animent nos cœurs. Le pharaon d'Égypte, par exemple, à l'époque de Moïse, avait fini par noyer les bébés hébreux dans le Nil. Avec ses soldats, avec ses hommes, c'était voilà, la solution radicale. Il noyait ses bébés hébreux dans le Nil. Dieu s'est opposé à lui, il est intervenu, ils ont fait un bras de fer en dimanche, les 10 plaies d'Égypte. Le pharaon s'est obstiné et Dieu, on le voit dans le récit, les 10 plaies, au bout d'un moment, Dieu arrête de s'opposer à lui et plutôt que de le retenir, il va souffler presque sur les braises, de sorte que la folie du pharaon aille jusqu'à son paroxysme. Et lui, qui voulait plonger les bébés hébreux dans le Nil, finira noyé lui-même dans l'eau. Dieu ouvre la mer Rouge en deux, le peuple s'y engage, et le pharaon, qui voit que Dieu a ouvert la mer Rouge en deux, s'y engage aussi. C'est complètement stupide. C'est une folie, en fait. Et il périra ainsi. Les Israélites, donc, ont été appelés hors d'Égypte pour venir en Canaan et ici devenir la nation de Dieu. Et le problème qui a été récurrent chez eux depuis leur installation jusqu'à la fin, ça a été de rendre un culte aux dieux des nations, parce que quand même les dieux des nations, ils ont des religions vachement cool, alors que la nôtre, elle n'est pas vraiment cool. Et ils ont eu un problème d'idolâtrie du début à la fin. Et Dieu les a livrés à leur passion. Ils ont été déportés dans d'autres nations, dans ces nations d'ailleurs, qui ont ces dieux tellement cool, et vous allez servir ces dieux. Vous allez servir ces dieux que vous avez cherché à adorer au lieu de m'adorer moi. Cette colère de Dieu-là, dont Paul parle, quand Dieu nous livre à nos passions, c'est quelque part, dans sa colère, Dieu arrête de nous retenir. Il ne va pas rajouter des choses dans notre cœur qui n'y étaient pas. Il ne va pas rajouter des mauvaises pensées dans notre cœur qui n'y étaient pas. Il ne va pas exciter des désirs dans notre cœur qui n'y étaient pas. Il va juste, on pourrait le dire comme ça, nous lâcher la bride. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être contenu. Je n'ai pas l'impression d'être contenu dans le mal. Mais ce monde-là, nous, notre Église, nos communautés, notre pays et le monde entier subit, enfin, pas qu'il subit, au contraire, il est au bénéfice d'une action de Dieu qui retient, qui limite, qui endigue le mal. C'est vrai que souvent on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu peut permettre telle chose et pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien ici ou pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien là ? Je comprends qu'on ait ce sentiment, vraiment. Et pourtant, j'ai la conviction qu'on pourrait se poser la question à l'envers. Oh ! Regarde cette guerre terrible en Ukraine, en Israël, et imagine si Dieu laissait libre cours à nos passions. Que se passerait-il ? Et dans cette folie que nous poursuivons, nous nous faisons du mal à nous-mêmes et nous faisons du mal aux autres. Voilà la colère de Dieu qui sévit dans ce monde-là. Autour de nous, elle se manifeste par de l'injustice sociale, par de la misère, par de l'exclusion, du rejet, par des mœurs, des façons de penser l'humain, la sexualité, qui sont plus à la gloire de Dieu et qui nous font du mal à nous-mêmes. Des sociétés qui s'effondrent par leur propre folie. Je ne vous dirai pas, n'ayez crainte, vous êtes dans l'église, vous êtes en lieu sûr, vous êtes comme dans l'arche de Noé, tout se passera bien pour vous. Parce que non, en fait, ça va être, ce sont des choses qui sont dures à vivre autant pour l'église, autant pour le peuple de Dieu, pour ceux qui subissent ce jugement. Quand l'église de l'Apocalypse se préparait à traverser le jugement, Dieu est venu passer en revue ses églises, c'est les lettres aux sept églises, et à chaque église, il lui dit « Reprends-toi, ça va être dur. Tiens-toi ferme, retrouve tes appuis pour traverser cette épreuve. Je suis avec toi, tu traverseras par la foi, mais il faut traverser. » La colère de Dieu est une réalité. Elle est aussi une espérance, la colère de Dieu. Avoir un Dieu qui se met en colère contre l'injustice, c'est plutôt rassurant aussi. Parce qu'on sait dans quel camp il est. Il n'est pas dans le camp des dominants, il n'est pas dans le camp des tricheurs, il n'est pas dans le camp de ceux qui abusent. Il aspire à faire tomber sa justice comme un couperet sur ce monde, mais prend patience pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais un jour, nous savons que la justice de Dieu aura le dernier mot sur toute chose. Justice de Dieu qui est une espérance pour nous. Mais la colère de Dieu et le revers de la médaille peut être négatif, ou en tout cas inquiétant, de sa justice. Comment vivre ces choses-là ? Comment nous positionner face à elles ? J'ai été touché récemment en voyant des messages circuler sur les questions de la guerre entre Israël et la Palestine, de voir des suggestions de prière où quelque part on souhaitait le malheur aux autres. Ça m'a vraiment beaucoup troublé, en me disant, mais comment des chrétiens peuvent souhaiter le malheur des autres ? En divers endroits dans la Bible, on voit que le peuple de Dieu n'est pas appelé à tirer vengeance par lui-même. Vous connaissez certainement cette citation de la Bible, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. » C'est moi qui accomplirai la justice. C'est moi qui rendrai à chacun selon leurs œuvres. Et si c'est vraiment le cas, alors nous, les enfants de Dieu, qui attendons un jour une justice qui viendra de Dieu, pendant ce temps-là, nous ne souhaitons pas que la colère de Dieu tombe sur les uns ou sur les autres. Nous ne souhaitons pas un malheur pour les uns ou pour les autres. Mais au contraire, nous sommes appelés à bénir ceux qui nous font du mal, à tendre l'autre joue, à donner à boire à nos ennemis, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous connaissez ces phrases-là. Ce qui veut dire que même dans un contexte où quelque part, et on l'entend, certains d'entre vous le pensent, je crois, que l'Occident va de plus en plus mal, que les mœurs ne vont de plus en plus mal, que l'économie va de plus en plus mal, et qu'on va vers une espèce de décadence. La ligne d'or des chrétiens dans ces situations-là, même compliquées, reste la même, c'est l'amour. Même quand Dieu manifeste sa colère contre quelqu'un, vous avez l'impression que, voilà, clairement, lui, il s'enfonce dans le jugement de Dieu, ça ne nous autorise jamais à le mépriser, à l'ignorer, à le dégrader de quelque façon que ce soit, qu'elle reste toujours une image de Dieu. Mais parfois, ces images de Dieu s'enfoncent trop loin pour que nous puissions les y suivre. Il ne nous reste que la prière, à distance. Ça vous est jamais arrivé de voir des personnes comme ça persévérer et s'enfoncer dans des mauvais choix et vous dire, mais Comment le retenir? Peut-être parfois le Seigneur agit ainsi pour les conduire à la repentance. En tout cas, on l'espère. Car oui, on peut dire qu'il y a une troisième facette de la colère de Dieu que je n'ai pas forcément exprimée. La colère de Dieu sert non pas à détruire, non pas à évacuer le mal, mais à amener les hommes à la repentance. Imaginons, je caricature un peu, mais une famille où les parents se démèneraient tout le temps pour que rien ne traîne et tout soit perpétuellement rangé, et ça pendant des années. Il y a fort à parier que les enfants de cette maison ne sauraient jamais ranger quoi que ce soit par eux-mêmes parce que leurs parents sont tout de suite derrière pour ranger les choses. Moi, je suis un peu désorganisé, comme vous le savez, pour certains. Et pour m'aider à prendre soin de mes propres affaires, ma femme a développé une technique très efficace qui s'appelle « Je te laisse te débrouiller avec ». Juste avec ironie, des fois, elle mesurait le tas de piles de fringues qu'il fallait que je range. Mais l'évidence était devant moi, je ne savais pas m'occuper de mes affaires. À moi de le prendre en charge. Quelquefois, elle me faisait grâce et s'en occupait elle-même. Mais la plupart du temps, elle me laissait me débrouiller avec. Et je l'en remercie beaucoup. Parce que j'ai une épouse qui ne me traitait pas comme un enfant, mais comme un adulte qui devait se prendre en charge. Il y a bien des situations où on aimerait que Dieu intervienne, juge, arrête, condamne, retranche le mal. Mais le fait qu'il ne le fasse pas le rend visible, l'exhibe, le rend évident et soulève cette question. Pourquoi ? Pourquoi cette souffrance ? Et cela manifeste la colère de Dieu. Alors je ne comprends pas comment il fait le Seigneur pour supporter tout ce qu'il laisse advenir sur terre. Je ne comprends pas comment il peut prendre cette patience. Parce que nous ne sommes conscients que d'une partie du mal qui sévit sur la terre. Lui est conscient de tout l'ensemble du mal qui sévit sur la terre. Plus de tout ce qu'il a retiré, tout ce qu'il a limité, tout ce dont il n'a pas permis que ça arrive. Et déjà pour nous, ça fait tellement trop. Comment fait-il le Seigneur ? Mais aussi, on pourrait se poser une autre question. Comment est-ce que nous, on fait pour ne pas apprendre ? Comment est-ce que nous, on fait pour vivre tranquillement chaque jour en Occident et gâcher des millions de tonnes de nourriture en déchets, en juste parce qu'on veut manger des nuggets de poulet, mais pas des ailes, alors on va gâcher des tonnes de trucs. Comment on fait pour vivre avec ça sans apprendre, nous aussi ? Dieu est en colère. C'est pour ça qu'il y a un jugement qui vient. Dieu n'est pas en paix avec ce qui se passe dans le monde. Dieu n'est pas tranquille. Il prend patience. Parce qu'aucune de ses colères n'est immaîtrisée. Aucune de ses colères n'est spontanée suite à un craquage parce qu'on est allé trop loin cette fois-ci. Mais il n'est pas en paix avec ce qui se passe dans le monde. Loin de là. Et nous ne devrions pas non plus être en paix avec ce qui se passe dans le monde. Même si nous sommes en paix avec Dieu lui-même. Le juste vivra par la foi. Je répète ces mots-là. Parce qu'ils sont pour nous. La foi est ce qui va nous permettre de traverser toutes les épreuves et les jugements qui s'abattraient sur le monde. Et heureusement que c'est la foi qui nous fait traverser. Heureusement que ce n'est pas un besoin de justice ou de réussir à atteindre un certain niveau de bonnes actions, de bonnes œuvres. Heureusement que c'est la foi. Parce que ça nous permet de regarder la justice de Dieu en face. Clairement, de la voir pour ce qu'elle est, immense, parfaite, terrible, mais lumineuse. Et de me regarder moi tel que je suis. Et je vois, oui Seigneur, je ne suis pas sauvé parce que je le mérite. Je ne suis pas sauvé parce que moi, je ne participe pas à ce qui se passe dans le monde. Oh, que si j'y participe, bien malgré moi. Je suis sauvé parce que tu me veux avec toi, que tu me l'as promis. Alors je te crois. Et c'est heureux parce que n'importe qui, aussi loin s'est-il enfoncé dans sa révolte, peut revenir à Dieu en un instant et trouver le salut et le chemin vers la maison du Père. Alors, béni sois-tu, Seigneur, d'avoir fondé ton salut par la foi et nous avoir ta justice et à craindre ta colère avec respect. Mais nous n'avons pas peur de toi parce que tu nous as rachetés par ton sang. Amen.